Divergence FM, l'interview. L'interview.
Alors bonjour Patrick Dexon.
Bonjour.
Merci beaucoup de répondre à Divergence FM depuis votre lieu actuel, parce que vous êtes quelqu'un qui est toujours parti un peu, hein, vous êtes rarement toujours présent. Soit vous êtes en mer, soit vous êtes dans d'autres contrées que Montpellier. Alors donc, merci beaucoup d'avoir accepté ce petite interview de 10 minutes. On voudrait avec vous d'abord revenir sur la mission scientifique de le 7e continent qui s'est déroulée, qui s'est terminée le 15 octobre en Méditerranée. En quelques mots, bien sûr. Hein.
Oui, bien sûr, ben, c'est une mission qui est d'une grande importance, hein, puisque on est allé chercher la disparition de ces 99% de plastique qui manquent dans les océans, selon l'estimation de 270 millions, et on est allé la chercher sous forme nanométrique, donc c'est une première mondiale. On est allé la chercher aussi bien dans l'atmosphère que dans la colonne d'eau.
Dans la colonne d'eau, et donc c'est ça, quand vous dites 99%, on n'en voit en fait pas beaucoup de ce plastique, réellement, hein, c'est ça. On le trouve pas facilement.
Oui, c'est ça, en fin de compte, depuis qu'on mène ce combat avec d'autres ONG, hein, oui. Au niveau international, on arrive à répertorier 15% de ce plastique, parce que les prélèvements se font qu'en surface. Et effectivement, on estime à 270 millions de tonnes présents actuellement dans les océans. Et quand on fait nos calculs, on trouve que 1%. Alors c'est pour ça que mes équipes de recherche, oui. On a enquêté pour savoir où passer ces 99% de plastique. Et c'est vrai qu'en 2016, on a pu démontrer scientifiquement que ce plastique qui dérive dans les gyres océaniques se fragmente de plus en plus petit jusqu'à atteindre la nanoparticule.
Et
la nanoparticule, c'est 30 000 fois plus petit que la taille d'un cheveu.
Alors, c'est pour ça qu'on ne la trouve pas facilement, évidemment. Hein, ce n'est pas évident à trouver.
Voilà, c'est déjà très compliqué parce qu'on ne peut pas les voir. Hein, on travaille sur de l'invisible. Et ensuite, après, on ne sait pas où elles vont. Et donc, la mission qui s'est déroulée dernièrement, c'est justement pour essayer de tracer le parcours de ces micro et nanoparticules dans l'océan.
Alors vous étiez en Méditerranée, c'est une grande première en Méditerranée.
Ben oui, de toute façon, on a bien compris que la Méditerranée, malheureusement, est l'une des mers les plus polluées au monde, hein, de par sa géographie.
Presque fermée.
Et très habitée tout autour. Et on s'est aperçu effectivement que la concentration de plastique à certains endroits était tout aussi importante que dans les gyres océaniques où on avait l'habitude d'y aller.
Oui, vous aviez... Je vous en prie.
On partait dans le Pacifique, on partait dans l'Atlantique Nord, et là on a décidé, ben voilà, d'après les travaux d'autres ONG, de se dire, ben on va quand même nous aussi voir ce qui se passe en Méditerranée, et effectivement, on a pu relever des quantités de plastique tout aussi importantes que dans les gyres océaniques. Donc pour nous, la Méditerranée, ça peut devenir un véritable laboratoire, parce que ça ne demande pas des longs voyages, des longs convoyages en bateau. Et si on arrive à comprendre la Méditerranée, on comprendra bien sûr le reste de l'océan.
Oui, et votre bateau, il est à 7, hein, c'est ça, hein, je crois. Hein, il est basé à 7.
Oui, le bateau est basé à 7. Hein, c'est un partenariat qu'on a avec Port Sud de France, hein, Occitanie.
Oui.
Et effectivement, c'est aussi un peu le porte-drapeau de la région Occitanie.
Voilà, ben, je sais que Madame Delga tient beaucoup à ce que vous faites comme travail. Elle est vraiment, elle pense que c'est très important de faire ce travail en Méditerranée et avec le pavillon de l'Occitanie.
Bien sûr.
Bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, bien entendu, je sais très bien que quand on est chercheur et qu'on est en train de tâtonner dans toute cette inconnue, est-ce que vous pouvez nous dire si on a une idée quand même des effets de ces particules de plastique sur le corps humain?
Alors, la relation, bien sûr, plastique et santé publique, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on sait très bien que ces microplastiques qui sont absorbés par les poissons. Contiennent malheureusement des métaux lourds, et pas des moindres, du cadmium, du plomb, de l'arsenic. Et
tout ce qui est très bon pour la santé, quoi, hein. Tout ce qui est très bon pour nous.
Contamine le poisson. Et là, on parle de bioaccumulation dans la chaîne alimentaire. Et puis, effectivement, en bout de chaîne, il y a l'homme. Et l'homme peut être très impacté à cause de tous ces produits qu'on retrouve dans les poissons. Après, le lien direct est très difficile à faire, hein, puisque malheureusement, on a un environnement qui est trop pollué, et dire que ça vient du poisson qu'on a mangé la veille, c'est très compliqué. Par contre, ce qu'on sait, c'est sur les animaux filtreurs, les huîtres, les moules, il faut faut savoir que là, on mange directement du plastique. C'est-à-dire que ces animaux filtrent l'eau et en filtrant, ben, récupèrent ces microparticules de plastique, les accumulent dans l'organisme. Et quand on mange, par exemple, un bol de moule, on mange à peu près 200 particules micrométriques. Voilà. Bon, nous, ça va nous passer dans le transit intestinal. Mais on n'en connaît pas encore les conséquences sur la santé publique.
Ouais. Ah bah c'est sûr que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'expérience et beaucoup de travail de chercheur, hein, bien entendu. Et pas que vous, pas que de votre partie à vous. Hein. Là, après, il y a toute une chaîne de chercheurs qui doivent se mettre en place pour comprendre ce phénomène et l'analyser et essayer d'en tirer les conséquences. Mais ce qui est sûr et certain, c'est par contre du plastique, il y en a beaucoup. Et on pense notamment donc, aux moules, aux coquillages, de façon générale. Hein, le coquillage filtre. Et là, oui. là, on sait déjà qu'il y a vraiment du plastique.
C'est ça, voilà. Mmh. Là, on a retrouvé vraiment des traces de plastique. On les a vues au microscope, donc il n'y a pas de doute.
Malheureusement, ce que je dirais, quand on pourrait douter, mais enfin, on s'en doutait un petit peu parce que cette Méditerranée est presque fermée et puis toutes ces côtes qu'il y a est très, très, très habitée. Hein, on est un espace très habité et puis il n'y a pas toutes les mêmes normes entre les pays.
C'est ça, et puis après mécaniquement, la mécanique des fluides, autant le gyre océanique, le plastique peut rentrer et s'en échapper, qu'en Méditerranée, on a un autre phénomène mécanique, hydraulique, qui ne correspond pas du tout au gyre océanique. Et là aussi, on a besoin de comprendre comment ça se passe dans les courants pour savoir où finit aussi ce plastique.
Il y a le couloir de Gibraltar, hein, le détroit qui est difficile à passer, j'imagine, pour y compris les plastiques.
Ben, alors oui, alors là, effectivement, dans cette entrée, on va rentrer un peu dans le côté technique mais d'océanographie, je ne suis pas océanographe, mais en gros, voilà, il y a les eaux chaudes qui rentrent par le détroit de Gibraltar et qui vont faire le tour de la Méditerranée. En faisant le tour de la Méditerranée, ils vont se refroidir en passant, bien sûr, sur la partie nord de la Méditerranée et le golfe du Lion. Il va y avoir une zone de confrontation eau chaude, eau froide, au niveau des Baléares. C'est pour ça que notre mission est d'aller aux Baléares.
Oui.
Et cette confrontation eau chaude, eau froide, bah, créer une zone d'accumulation de plastique. Et là, on trouve, par exemple, 400 000 pièces au kilomètre carré, alors que sur un gyre océanique, on en trouve 300.
Et donc, vous avez été des Baléares jusqu'à la Corse aussi. La Corse, c'est particulier aussi parce que sa position géographique, là, au plein centre de la Méditerranée, enfin, une île en mer.
Oui, bah voilà, c'est le passage des courants. Et donc, effectivement, ce sont des zones où... Qui sont impactés, mais il faut, bon, après, je veux dire, toute la Méditerranée est impactée, donc après, c'est juste la quantité de plastique, il y en a plus ou un peu moins, mais voilà.
Est-ce qu'il y a une adaptation, je sais que c'est pas de votre domaine forcément, mais d'après vous, est-ce qu'il y a une adaptation du milieu marin à ce phénomène? Est-ce que les animaux s'adaptent, les algues, je ne sais pas?
Bah, après, on sait qu'il y a des conséquences, on sait que, par exemple, les polypes de méduses ont tendance à se reproduire plus rapidement et s'accrocher plus facilement sur les morceaux de plastique que sur les morceaux de bois, par exemple. Après, on manque bien sûr de recul, hein, pour connaître
si la faune
et la flore s'adaptent à tout ça. Mais on a quelques exemples, par exemple sur les polypes de méduses. Si les méduses voyagent maintenant beaucoup, on peut faire un lien avec les morceaux de plastique parce que les polypes adorent s'accrocher sur les morceaux de plastique.
Eh bien, écoutez, Patrick Dexon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors, je sais que vous êtes toujours par Mons et Mer. Donc, c'était très agréable de vous avoir au téléphone. Et puis, c'est quand même un combat qui concerne l'environnement de la planète, donc tout le monde. Hein, c'est bien ça. C'est un combat qui est vraiment que tout le monde doit prendre en compte pour lui-même.
C'est ça, oui. C'est chacun doit faire son petit colibri, hein, comme le dit Pierre Rabhi. Je crois que si on s'y met tous, c'est le citoyen qui a une vraie force de frappe pour ça, hein, pour réduire son impact plastique et influencer les industriels. Donc j'invite
et les politiques.
Et les politiques aussi. Mais bon, on sait que les politiques, bon, ils sont plus ou moins éphémères, malheureusement, alors que le citoyen, lui, est là pour un petit bout de temps et peut avoir une action beaucoup plus longue.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, cette interview donc, sera sur le site de Divergence. Dès qu'elle sera diffusée, elle sera en podcast. Donc, vous pourrez aller l'entendre. Merci beaucoup.
Merci.